La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et à 9h moins quart, l'événement du jeudi, j'ai nommé Franz-Olivier Gisbert, esprit libre avec nous sur Radio Classique. Bonjour Franz.
Bonjour David.
Les Russes votent aujourd'hui, samedi et dimanche, pays immense, élection jouée d'avance, mais il y a tout de même 4 candidats, dont Vladimir Poutine, les 3 autres servant à donner au scrutin une sorte d'allure démocratique. Votre regard sur une élection jouée d'avance, mais qui n'est pas quand même inintéressante?
Ouais, enfin, je peux vous donner un scoop mondial déjà, hein?
Oui.
Mondial. Vladimir Poutine sera réélu très largement. Alors, on ne sait pas si c'est 70 ou 80%.
C'est ça qui va être intéressant, c'est le pourcentage.
Il a donné des chiffres déjà. Et, mais non, il doit savoir, peut-être, ou peut-être qu'il va décider dans la journée. Bon, en tout cas, bref, dans tous les cas de figure, c'est une victoire de Poutine, puisque tous les candidats sont poutiniens. Des candidats grotesques d'ailleurs pour la plupart, pro-guerre, un nationaliste débile qui a déjà annoncé une victoire, je cite, énorme, fin de citation de Poutine, un communiste idiot qui est en plus colonel dans les services secrets, enfin bref, aucune chance qu'il se passe quoi que ce soit. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Poutine ne craint rien et pourtant il a peur. On voit très bien qu'il a peur, sinon il n'aurait pas fait tuer, selon toute vraisemblance, Alexeï Navalny dans sa prison arctique. Ses sbires ne se seraient pas attaqués non plus, là encore selon toute vraisemblance, à Leonid Volnov, l'ancien bras droit de Navalny, victime mardi soir d'une violente agression au marteau à Vilnius, en Lituanie, où il vit en exil. Là, on n'est pas dans la tentative de meurtre, hein, c'est un peu différent, ça s'appelle plutôt un avertissement, hein, c'est ce qu'on dit dans la mafia.
En Lituanie, dans une démocratie.
Oui, dans une démocratie, bien sûr. Et les poutinolâtres, ils vont encore nous dire, bien sûr, que c'est l'aile dure du Kremlin qui ont fait ça pour déstabiliser le gentil Poutine. Vous savez, c'est ce qu'ils avaient dit après l'assassinat tout près du Kremlin par une équipe professionnelle du prédécesseur de Navalny, le grand opposant aussi, Boris Nestov. Mais on peut craindre quand même qu'il y ait plus grand monde aujourd'hui pour le croire. La morale de tout cela, c'est qu'en cherchant à terroriser ses adversaires, le président montre qu'en fait, malgré les apparences, malgré ce que croient les poutinolâtres ici en France, ben il est faible. Hein. Il est fait pourquoi? Parce que, on voit bien, il fait assassiner systématiquement ceux qui attaquent la corruption de sa kleptocratie. C'est ça son point faible. Son point faible, ce sont les milliards qu'il détourne et amasse avec sa clique d'oligarques, et il refuse qu'on en parle. Le problème, c'est que l'opposition, il a beau tuer, ça repousse tout le temps. Est-ce que ce sera la prochaine figure de proue, Yulia Navalnya, la veuve de Navalny? Franchement, elle est très impressionnante. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos,
elle
vous évite les larmes, elle est courageuse, droite, etc. Bon, et si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis, je veux dire, il est seul avec son acolyte alcoolique Dimitri Medvedev, poivreau notoire, vous avez vu qu'il a insulté de manière absolument
incroyable,
idiote et stupide.
Non, mais pas idiote, scatologique.
Scatologique, bien sûr, oui.
Ordurière.
Trouillard zoologique, c'est comme ça qu'il a traité Macron, qui se fait tout le temps dessus. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un personnage ridicule.
Franz,
tout ça est ridicule.
Franz, comment vous expliquez qu'un homme qui a tant de pouvoir, Vladimir Poutine, est-ce que sa défaite, ça n'est pas d'avoir besoin de la démocratie pour se relégitimer un mandat de plus? Et c'est ça qui est assez curieux. Même si c'est un simulacre de démocratie, les dictateurs ont quand même besoin des apparences de la démocratie. Pourquoi? Alors que, bon, ils sont dictateurs.
Oui, mais en plus, c'est un voleur. C'est un mafieux, c'est ça l'histoire. Très souvent, ces dictateurs, ils sont derrière le paravent d'une idéologie. Lui, il n'y a même pas d'idéologie. C'est le fric, son fric. C'est ça, je le répète, la Russie aujourd'hui, la définition, ça n'a rien à voir avec le communisme. C'est une kleptocratie, c'est-à-dire un gang à la tête qui ramasse du fric. C'est ça l'histoire.
Est-ce que vous êtes certain que Vladimir Poutine est intéressé par l'argent ou qu'il utilise l'argent pour se mettre dans la poche depuis 25 ans qu'on appelle les oligarques? Lui, c'est le pouvoir,
déjà,
c'est le pouvoir qui l'intéresse.
Par le rédacteur en chef d'une grande revue économique, Forbes, revue américaine à Moscou, qui était un journaliste russe, qui a été assassiné parce qu'il trouvait quand même des choses. Enfin, tout ça, ce sont des milliards. Non, c'est certainement, d'ailleurs, d'après Forbes et d'autres revues économiques, c'est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde.
Franz-Olivier Gisbert, le président de la République, parle ce soir aux Français pour leur parler probablement de l'Ukraine. Que peut-il leur dire pour les convaincre? Il va leur parler de l'Ukraine, il sort d'une séquence où il a fait des annonces sociétales, il a fait consensus avec l'IVG, il essaie de faire consensus avec la fin de vie, il parle de l'Ukraine ce soir. Est-ce qu'il parle des Français, des sujets qui les intéressent?
Non. Bah, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui intéresse les Français aujourd'hui? On voit très bien, je regarde les sondages, tous mettent en tête le pouvoir d'achat et la sécurité. Alors en matière de pouvoir d'achat, on ne peut pas espérer une relance de la croissance avec les finances publiques telles qu'elles sont aujourd'hui, placées sous le signe des déficits, de l'endettement. Sur la sécurité, c'est clair que le discours a changé. Hein. Mais ce n'est que le discours, parce que dans les faits, il ne se passe rien. Il s'est rien passé. Et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut qu'il s'intéresse. Parce que ceux qui guettent la France, on le sait très bien, c'est une large victoire dans 3 ans du Rassemblement National. Vous avez bien remarqué que l'Occident vire à droite.
Il y a les Européennes avant quand même.
Ben oui, il y a les Européennes avant. On annonce plus de 30% pour la liste RN. C'est quand même... c'est un événement. Et je vous signale quand même, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, en Europe, ce qui s'est passé c'est au Portugal, dimanche dernier. On en parle beaucoup, mais enfin, le PS, qui était là depuis une éternité, a été très sévèrement battu au profit du centre-droit. Et puis surtout, il y a un parti d'extrême-droite, Chega, qui a fait une très grosse percée. En Allemagne, on n'aime pas en parler, mais le parti d'extrême-droite, l'AFD, avec plus de 20% des voix, selon les sondages, est désormais la deuxième force politique du pays, derrière la coalition de centre-droit, la CDU-CSU, et devant le parti social-démocrate, devant le parti social-démocrate du chancelier Scholz. Alors, voilà, c'est ça l'histoire. Il se passe quelque chose. Je vous conseille là-dessus de lire le livre de Charles Sapin, Les moissons de la colère, qui sort, là, je crois, aujourd'hui, ou enfin ces jours-ci, aux éditions du CERF. C'est un très bon journaliste. Et il nous raconte ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ça glisse. Et ça, je pense qu'il est temps que le président s'intéresse au sujet qui préoccupe les Français. Bon, là, il veut faire entrer, paraît-il, enfin, j'y crois pas, parce que le consentement, l'affaire du consentement dans l'amour, il veut faire rentrer ça dans la Constitution.
Non, mais c'est pas possible. Dans la loi.
J'ai lu ça. Non, mais j'ai pas
cru. Il a rencontré hier une associations de femmes et il leur a dit, on va réglementer le consentement.
La Constitution, elle va ressembler au Code civil, elle va être très très longue, on pourra plus la lire. Non, je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses.
Il est temps d'agir. Vous vouliez reparler de la mise en retrait, puis de la démission de Mathias Vichra, le patron de Sciences Po, qui est le lieu depuis 48 heures de manifestations pro-palestiniennes, de propos antisémites ou en tout cas anti-sionistes. Il y a une double page dans Le Parisien ce matin. Ça vous inspire ?
Oui, parce que, je n'ai pas de sympathie particulière pour Mathias Vichra, ancien camarade de promo de Macron, énarque, wokiste, et un peu trop wokiste pour moi, franchement. Bon, et il a laissé faire. Bon, il n'a pas démissionné pour ça, il est démissionné pour une affaire personnelle, violence conjugale, pour lequel, pour moi, selon moi, je suis peut-être un des derniers en France, doit jouer la présomption d'innocence.
Non, mais vous savez pourquoi? Il a démissionné parce que s'il revient à Sciences Po, il aura des associations, et c'est souvent les mêmes, qui vont lui faire un barouf monstrueux alors qu'elles sont minoritaires.
Jusqu'à présent, il les laissait faire. C'est-à-dire, il est quand même tombé dans son propre piège. Il les laissait faire. C'est-à-dire que, et moi, j'aime bien, là, une fois de plus, Gabriel Attal, qui s'invite dans une réunion du conseil d'administration de Sciences Po, occupé par des militants pro-Palestine surexcité et qui reprend le vieux proverbe chinois, le poisson pourrit toujours par la tête. Mais c'est vrai, c'est ça le problème. Vous savez, quand il s'agit des arbres, on dit qu'il faut couper les branches pourries. Bon, Gabriel Attal a annoncé qu'il saisirait la justice. Bah, quand elle sera passée, moi j'espère que l'on virera tous les antisémites de Sciences Po qui, au nom de l'antisionisme, ont refusé l'accès à une conférence à une étudiante juive. Impunité zéro pour les antisémites. Alors, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'un incident, je cite, « dérisoire ». Non, Monsieur Mélenchon, l'antisémitisme quotidien n'est pas dérisoire.
Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. Si vous entendez le Danube bleu, c'est normal. Son compositeur, Johann Strauss, père, est né un 14 mars 1804 à Vienne. Et donc, le Danube bleu, pour vous dire au revoir, Franz, et à la semaine prochaine.
C'est sympa, merci.